De Timothée, chapitre 3, je vais relire les quelques versets que nous avons commentés la semaine dernière, juste pour nous replacer dans le contexte. Donc verset 1 du chapitre 3, page 241 pour ceux qui ont la Bible à la colombe. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Les temps seront difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Et nous arrivons au passage que nous n'avons pas encore commenté. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé ? À Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Nous allons arrêter là et voir ce verset 5. Ces hommes qui caractériseront de plus en plus les temps de la fin, c'était déjà l'époque de Paul. Les derniers jours, dans le Nouveau Testament, ça désigne la période entre la première venue de Jésus et son retour. Et Paul dit à son protégé, à ce jeune pasteur à Éphèse, cette grande église, que Paul avait commencé et que Timothée était prêt de quitter parce que c'était trop difficile de gérer cette église avec tous les problèmes qui s'y passaient. Paul encourage Timothée à tenir bon, à rester ferme, et il le met en garde contre les fausses doctrine qui circulait et qui malheureusement circule encore aujourd'hui. Il est intéressant de voir qu'au cours de l'histoire, dès le premier siècle, ça ne devrait pas nous surprendre, Satan, qui est le prince de ce monde, qui a été vaincu à la croix, mais qui a encore une longue laisse voulue par Dieu, c'est lui qui nous mène par le bout du nez, bien souvent. C'est un pouvoir usurpé. Nous n'avons pas à lui obéir. Nous pouvons dire non au péché. Nous pouvons dire non à Satan. Nous pouvons dire non au monde. Bien souvent, ce vieux principe en nous-mêmes, ce qu'on appelle la chair, la vieille nature, qui est tentée par le monde, ce monde qui est dirigé par le prince de ce monde, Satan, fait que nous n'avons pas la victoire sur le péché. Et dès le début de l'histoire de l'Église, dès le premier siècle, les hérésies ont pullulé. Le mot hérésie en lui-même, c'est pas un mot très grave, ça veut simplement dire les choix. Mais c'est les choix entre la vérité et tous les mensonges. Un des mensonges, notamment, alors Il y a un auteur du milieu du XXe siècle, John Warwick Montgomery, un anglo-saxon, qui a distingué dans l'histoire de l'Église sept périodes d'hérésie. Au tout début, ça a été le sacramentalisme. C'est l'Église qui remplace Dieu. C'est l'époque où on a construit des belles cathédrales. C'est l'Église avec les cierges, les vitraux. Waouh, c'est beau. Dieu doit être là, c'est tellement beau, c'est tellement sacramentel. Il y a des choses un peu mystérieuses. Et puis, ça a été remplacé plus loin par le rationalisme. C'est la raison qui devient Dieu. Et si on ne peut pas expliquer rationnellement les choses, si on ne peut pas expliquer les miracles, alors c'est pas vrai. La raison devient Dieu. Ça me fait penser à l'histoire du petit garçon qui s'étonnait devant son institutrice qui lui disait que les Israélites, la mer ne s'était pas ouverte devant les Israélites et qu'en fait ils étaient passés dans un endroit où il y avait très peu, très très peu d'eau. Il y avait juste un peu de, c'était un gué, il y avait un peu de boue. Et les Juifs, les Israélites avaient pu passer sans encombre là. Et le petit garçon lui disait, mais madame l'institutrice, pour moi c'est le grand miracle, c'est que les troupes égyptiennes se soient fait engloutir dans ce passage où il n'y avait presque pas d'eau. Et ça, c'est la façon de prendre tous les miracles et de dire qu'en fait, ils n'ont pas eu lieu. C'est le rationalisme. Après, il y a eu le dogmatisme. On adhère à une orthodoxie. C'est impersonnel, c'est stérile. Et c'est aussi ça qui devient Dieu, l'orthodoxie, de bien penser comme il faut, comme l'Église généralement le pense. Il y a aussi la politisation, c'est l'État qui devient Dieu, c'est le communisme, c'est le parti. C'est une religion tout ça. Puis ça a été remplacé par l'œcuménisme. Ah là, tout le monde est frère, tout le monde... coopère entre chrétiens pas beaucoup, pas très engagés. On appelle ça des chrétiens nominaux. Ils ont le nom, mais il n'y a pas de vie réelle. Et cette fraternité égalitaire et de coopération qu'on appelle l'œcuménisme, c'est devenu le Dieu de Vatican II, etc. Plus récemment, on parle d'expérience personnelle. C'est l'expérimentalisme. Ce qui compte, c'est parce que la Bible décrit, c'est ce que je vis. Waouh ! Et mon expérience devient Dieu. Et puis finalement, il y a le subjectivisme. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais une religion à la carte. J'aime bien la méditation. On va mettre un peu de méditation. Et puis, waouh, c'est pas mal aussi les... l'encens, les bougies. Est-ce que je crois à la résurrection ? Non, mais je crois à la réincarnation. Donc, on va faire de l'encens, de la réincarnation. Et on se fait une petite religion à la carte. Et on est tout content, sans s'apercevoir qu'en fait, c'est un montage purement subjectif qui n'a aucune valeur intrinsèque. Un autre auteur a rajouté deux éléments que l'on voit beaucoup aujourd'hui, le mysticisme, qui cherche à établir la vérité concernant Dieu au moyen de mon intuition et de mes sentiments. Ah oui, ça je le sens. Je pense que c'est la vérité parce que je dormais et j'ai eu ce sentiment et je suis mystique. Il y a une autre solution aujourd'hui pour établir la vérité en ce qui concerne Dieu, c'est est-ce que on aboutit au résultat escompté? On veut faire grandir l'Église, on sert de la pizza, on voit le match de rugby tous ensemble. Du moment que ça mène du monde, c'est bon. Rien à voir avec notre essai de voir le match la semaine dernière. C'est juste l'idée, c'est pas de plaire à Dieu, c'est de plaire aux hommes. C'est pragmatique. Et toutes ces hérésies, c'est ce que Paul décrit dans les versets que nous avons commentés la semaine dernière. Les hommes ne cherchent pas à plaire à Dieu, ils cherchent leur plaisir, ils cherchent l'argent. Ils s'aiment eux-mêmes, ils sont égoïstes, ils sont amoureux d'eux-mêmes au lieu d'être amoureux de Dieu. Et ils sont d'autant plus dangereux. Alors, il parle bien sûr des hommes en général, mais là, c'est dans le contexte des responsables ou de ceux qui se disent responsables d'église, de mouvements chrétiens, d'activités chrétiennes. Ces gens-là sont d'autant plus dangereux qu'ils gardent l'apparence, la forme extérieure de la piété. On les voit et on se dit « Ah oui, ça c'est un homme de Dieu. Waouh !» Toujours très respectueux, bien habillé, toujours correct. Mais ils en renient la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils renient la puissance de la piété? La piété, c'est ce mot vieilli qui veut dire la façon de plaire, le désir de vouloir plaire à Dieu, une vie qui cherche à plaire à Dieu. Et donc, Paul nous rappelle, et toute la Bible nous demande de faire très attention aux apparences et à la réalité intérieure. Vous vous souvenez, lorsque Saül devait trouver Samuel devait trouver le successeur de Saül. Dieu l'avait envoyé auprès des fils de Jessé. Et il trouvait le premier fils qui était superbe, très athlétique, très charismatique. Et il se dit, ah, ça doit être lui. Et la parole nous dit, l'homme juge selon les apparences, mais Dieu juge au cœur. Alors, c'est pas facile de juger au cœur. Ça demande de la patience, ça demande de la prière, ça demande l'aide de Dieu, ça demande le don de discernement qui est un don spirituel, mais c'est essentiel pour que l'Église puisse avancer, que l'Église puisse toucher le monde et non pas être considérée comme une vieille tradition dépassée que l'on doit ignorer, contre laquelle on doit lutter. Il renie la puissance de la piété, du fait de vivre pour Dieu. Alors ça peut être de bien des façons. On peut assister à des cultes de façon tout à fait formelle. Alors vous qui êtes ici, je sais et j'espère que personne n'est là pour impressionner les autres ou parce que c'est par tradition ou mon désir, c'est que vous ayez ce sentiment de vouloir rencontrer Dieu quelque part. Ça peut être flou au départ, mais vous avez cette tension vers quelque chose de plus grand que vous, vers quelqu'un de plus grand que vous. Mais il s'agit, dès qu'il y a un enterrement d'une personne célèbre, même si on est dans la République laïque, on pense que c'est toujours mieux quand même d'aller à l'église pour les funérailles. Et donc, on va se retrouver à la Madeleine, à l'église de la Madeleine en général à Paris, avec des gens qui n'ont rien à faire de Dieu, mais il y a cette forme extérieure de la piété, juste au cas où. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, ça fait perdre du temps, une heure, peut-être deux heures, mais ça vaut la peine pour les élections. Et puis on sait jamais, Ils en renient la puissance parce que ce qu'ils font, c'est totalement formel, c'est totalement vain. Ça peut être aussi l'influence de notre famille, l'influence de notre entourage qui fait qu'on va à l'église, qu'on dit croire à Dieu. On sait que il n'y a pas de petits-enfants dans la foi, c'est-à-dire que la foi c'est quelque chose de personnel. C'est pas parce que ma mère était une croyante fervente, c'est pas parce que ma grand-mère était une femme qui cherchait à plaire à Dieu, qui s'engageait dans des bonnes œuvres, etc. La relation avec Dieu, c'est une relation directe entre moi et lui. Si je n'ai pas cette relation, je peux avoir une forme extérieure de piété, mais j'ai renié la puissance de l'Évangile à toucher mon cœur, à me transformer. Dans certains pays, ça peut être le respect que ça amène sur la personne qui va à l'église ou qui se dit chrétienne. En France, c'est plus tellement le cas. Aux États-Unis, vous remarquerez que la plupart des candidats aux élections présidentielles se disent généralement chrétiens. Pourquoi ? Parce que là-bas, chaque dimanche, 40% de la population va à l'église. Et on peut se demander quel genre de puissance cette grande partie de la population américaine a renié, parce que, vous le savez comme moi, la vie publique, la vie aux États-Unis n'est pas une vie marquée par une piété réelle, une piété profonde. Il y a des gens, et Dieu merci, qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui le servent, mais il y a aussi beaucoup d'églises libérales où on se réunit par tradition, par piété extérieure, sous cette forme de piété, de forme extérieure de piété, mais il n'y a pas de substance, il n'y a pas de réalité. La France est allée tellement loin dans le rejet de l'Église qu'on est à peu près exempté, on n'a pas réellement ce problème. La plupart du temps, vous n'allez pas dire le lundi, pour gagner le respect de votre patron, que vous étiez à l'église la veille. Ce serait bien de le dire, mais ça demandera du courage et ça sera un vrai témoignage. Aujourd'hui, la croix, c'est souvent qu'un bijou. On voit des artistes, des célébrités qui portent une croix comme Madonna, et on sait que leur vie n'est en rien un exemple de piété. C'est devenu comme une plaisanterie, c'est devenu comme un vieil ornement qu'on porte comme ça pour dire que on s'en moque, et de toute façon, il n'y a pas de réalité derrière cela. Dans certains pays, la foi, c'est, ou la prétention d'avoir la foi, c'est une forme d'enrichissement. Si vous voulez devenir riche, devenez pasteur. Pas en France, mais dans certains pays, parce que les gens vont vous donner des cadeaux, vous allez pouvoir prêcher une doctrine de la prospérité qui dit que si vous donnez votre argent, Dieu vous le rendra au centuple. Ce serait bien que ceux qui disent cela le fassent eux-mêmes. Mais ils s'en gardent bien, ils sont motivés par l'argent. Cette forme extérieure de la piété, c'était un problème. Si vous regardez juste, il suffit de tourner la page, ou sur la page qui suit, la page où vous êtes, dans Tite, une épître à un autre de Paul, à une lettre de Paul à un autre jeune pasteur qui se trouvait en Crète, sur l'île de Crète. Il dit à partir du verset 15 du chapitre 1, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Ce verset 16 reprend tous les versets qu'on a relus depuis le verset 1 du chapitre 3. Ils font semblant. La puissance dont il est question, c'est peut-être la puissance dont parlait Jésus lorsqu'il disait dans Matthieu 22, 29, « Vous vous trompez parce que non seulement vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. » C'était les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection et qui posaient à Jésus des questions pièges pour savoir, lorsqu'il y avait des frères qui ressuscitaient, que la femme du premier avait épousé le second, etc., de qui serait-elle la femme ? Et Jésus leur dit, vous vous trompez, vous faites fausse route, vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est pas seulement la puissance qui peut agir dans ma vie, mais je crois ici, c'est la puissance de la parole, la puissance de Dieu à nous convaincre de notre péché et à nous conduire à la repentance. C'est la puissance qui fait que nous nous repentons d'une vie loin de Dieu et qui nous transforme profondément. C'est le plus grand miracle, c'est peut-être pas ce auquel on s'attend. Je crois que le plus grand miracle, c'est une personne qui se repent et qui vient à Dieu. Et je suis toujours touché, émerveillé. Et je dois dire presque incrédule lorsque je vois une personne se tourner vers Dieu. C'est pas bien d'être aussi incrédule, mais malheureusement, l'expérience montre que c'est assez rare. C'est ce que la parole nous enseigne. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène au salut. Mais le plus grand miracle, c'est cette puissance de Dieu dans sa parole qui fait que nous nous tournons vers lui et que nous reconnaissons qu'il existe, qu'il nous a créés, que nous vivons loin de lui, que nous sommes pécheurs et que nous devons lui demander pardon, revenir à lui, nous repentir, faire demi-tour et le suivre et recevoir gratuitement, sans le mériter, son amour, son salut. Ça vaut tous les autres miracles. Le miracle d'un bras instantanément guéri, je ne dis pas que ça serait pas mal, mais Dieu est en train de guérir, il prend son temps, et Dieu peut aussi prendre son temps dans la conversion des âmes. Des fois, nous nous décourageons parce que nous ne voyons pas de résultats instantanés. Nous oublions bien souvent qu'il nous a fallu pas mal de temps, la plupart du temps, pour faire cette démarche qui consiste à venir à lui en reconnaissant que nous sommes des pécheurs qui méritons la mort, mais à qui il offre la vie. Il nous donne, Paul, ici, dans ce passage, il fait un diagnostic du problème. Dans les derniers jours, de plus en plus, les temps vont être difficiles, c'est pas les temps en eux-mêmes. C'est les hommes qui vont vivre à ces époques qui vont faire que ça va être très dangereux parce qu'ils risquent de nous détourner de Dieu. Et la façon de vivre dans les derniers temps, c'est la fin du verset 5, « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Bien souvent, aujourd'hui, on fait des constats sur l'état de déliquescence de notre société. Les problèmes économiques, politiques, démographiques, et les gens parlent, mais il n'y a pas de solution. On espère que du choc des idées politiques va peut-être naître la lumière, que l'éducation, une meilleure économie, mais si vous ne faites que lire les informations, les grands titres, les articles de journaux, si vous regardez les débats, franchement, il y a de quoi être très, très négatif. Il n'y a pas de nouvelles très encourageantes. La Bible, elle, nous fait un constat authentique, fait un constat avec lequel nous n'avons aucun mal à être d'accord. La description des hommes dans les derniers temps, l'égoïsme, l'orgueil, la rébellion aux parents, toutes ces choses-là, nous pouvons dire « Amen », nous pouvons dire « Oui, c'est bien vrai ». La Bible nous donne une solution, déjà, la solution bien sûr c'est venir à Jésus, mais là pratiquement, éloigne-toi de ces hommes-là. Et là, quand il dit « éloigne-toi », c'est « éloigne-toi comme avec horreur ». Ne traîne pas, n'attends pas, détourne-toi complètement. Et je crois qu'il veut nous donner un conseil. Il y a malheureusement, aujourd'hui encore, et de plus en plus je crois, des faux enseignants. Il suffit de tourner la télé sur les box où il y a plus de chaînes et il y a des émissions religieuses entre guillemets pour voir des tas de fausses doctrines et notamment la prospérité parce que la prospérité a des moyens en promettant aux gens la prospérité s'ils donnent de l'argent ces faux prophètes ont des moyens. Et c'est eux qui viennent sur les ondes, sur les télés du monde entier. Ils viennent vous menacer de détournement de la vérité. Si vous les suivez, si vous les écoutez un peu, et on a une curiosité légitime, mais il y a des choses qu'il vaut mieux être innocent. Dans les bonnes choses, soyez un expert. Dans les mauvaises choses, soyez un amateur, nous dit la parole. Ne cherchez pas à savoir quelles sont toutes les perversions qui peuvent exister dans n'importe quel domaine, que ce soit financier, sexuel, politique, corruption. Ne cherchez pas à devenir des experts du mal. Bien au contraire, soyez innocents dans ces choses-là. Et ne vous associez pas. N'allez pas écouter ces faux prophètes de la prospérité qui vous disent que si vous êtes malade, c'est parce que vous n'avez pas assez donné d'argent. C'est parce que dans votre cœur, il n'y a pas assez de générosité pour les autres. Qui vous disent que si vous n'êtes pas riche et bien portant, c'est qu'il y a du péché dans votre vie. On va voir un verset qu'on a lu tout à l'heure, il y a un moment, qui bat ça complètement. Mais l'homme étant l'homme, on est toujours curieux. Et si c'était vrai, la prospérité? La prospérité, elle est promise par Dieu. Dieu nous rend riches, mais pas nécessairement financièrement, pas nécessairement avec des biens matériels. Les plus grandes richesses, ce sont des richesses qui durent, ce sont des richesses éternelles. C'est le fait que nous sommes assis avec lui pour l'éternité dans les lieux célestes. Ça, c'est être riche. On voit combien la richesse est passagère. Paul l'expliquait dans 1 Timothée 6. Il y avait un petit reportage il n'y a pas longtemps sur John Maddox, qui est en prison pour 175 ans, je crois. Et dont le fils s'est suicidé, la femme l'a quitté. Lui qui était milliardaire, il se retrouve dans la déchéance la plus complète. Mais Paul ne dit pas « allez discuter avec eux, allez voir ce qu'ils disent, éloignez-vous d'eux ». Ne pas s'associer à ces faux prophètes. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15:33, ne vous y trompez pas, de mauvaise compagnie corrompt de bonnes habitudes. N'allez pas essayer de convertir des gens qui sont ancrés dans ces choses-là. Priez pour eux, mais n'allez pas engager un dialogue nécessairement, à moins d'être vraiment conduit par l'Esprit. On doit être dans le monde, mais on ne doit pas être du monde. On ne doit pas s'attacher aux valeurs du monde. J'aime bien ce que disait un de mes amis pasteurs qui dit « Un bateau n'est pas un bateau s'il n'est pas dans l'eau, mais si l'eau est dans le bateau n'est plus un bateau. » On peut être dans le monde, mais on ne laisse pas l'eau du monde rentrer dans le bateau, sinon on coule avec le monde. Et donc, il faut se détourner de ces hommes-là. Et il continue en décrivant qu'il y en est parmi eux certains qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ah, je l'avais dit, moi je savais que Paul est un macho, il se moque des femmes qui se laissent influencer. À l'époque, l'éducation était réservée aux hommes. Et c'est vrai que les femmes étaient des cibles plus faciles que les hommes pour ces faux docteurs qui s'introduisaient. Ça fait penser un peu à ce prêtre russe qui avait influencé la famille du tsar Rasputin. Il utilisait son influence, son charisme, entre guillemets, pour manipuler les gens. Et là, Paul nous met en garde encore contre ces hommes, ces faux prophètes qui viennent mentir aux gens les plus vulnérables. Aujourd'hui, ces faux prophètes s'introduisent dans les maisons par la télévision, par Internet. Le pasteur Credo Dollar, c'est son nom, adopté, il a accès chez vous, si vous lui laissez, si vous ne détournez pas du canal sur lequel il apparaît. Il va vous demander tout votre argent en vous promettant que Dieu va vous rendre centuple. Ces femmes, et on peut parler des gens les plus vulnérables, sont influençables. Des fois, ils utilisent le ressort du péché, des tentations qui vont déclencher une réponse. Ça peut être toutes sortes de péchés. Ça peut être la pas du gain. Ça peut être même au niveau de la sexualité. Ça peut être des tas de choses. On connaît les gourous dans les sectes, certaines sectes. Il y avait David, je ne me rappelle plus de son nom, qui se faisait appeler Moïse, les enfants de Dieu. Les jeunes femmes étaient appelées à évangéliser en séduisant les hommes. Il y a des tas de choses incroyables qui se passent au nom de la religion par ces gens dont Paul nous dit de nous éloigner. Verset 7, il dit que ces personnes apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. On peut apprendre beaucoup de choses, notamment en matière de Bible et d'avoir des connaissances sur la parole de Dieu. Et ces connaissances peuvent rester intellectuelles, ne pas aller jusqu'au cœur. C'est un danger dont nous devons tous être conscients. Moi le premier, on peut connaître des choses sur la Bible sans qu'elle aille toucher, sans qu'elle fasse les quelques centimètres entre notre tête et notre cœur. Jésus, dans Jean 7:17, disait que l'obéissance, c'est l'organe de la connaissance. On va comprendre les choses seulement si on est prêt à y obéir. Jean 7, 17, c'est un verset très important. Si quelqu'un veut faire sa volonté, parlant de Dieu, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Il disait, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et si vous êtes prêt à faire la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole, alors vous allez comprendre sa parole. Lorsque vous prenez la Bible, j'espère chaque jour, pour lire un passage régulièrement, si vous le faites en disant « je vais pouvoir cocher ma petite liste et je pourrai passer à autre chose de plus intéressant rapidement », vous n'allez rien, ça va s'évaporer, il n'y aura rien qui va rester. Si vous venez à la parole de Dieu, en demandant à Dieu de vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie, ce qu'il doit améliorer dans votre vie, les choses que vous êtes désireux ou désireuse de mettre en pratique, à ce moment-là, vous allez être surpris de voir que les choses vont vous parler d'une façon tout à fait différente. Et ça, c'est vraiment un conseil essentiel. Lorsque vous venez à la parole de Dieu, ne venez pas pour recevoir une connaissance livresque, une connaissance des histoires, aussi intéressante que ça puisse être. Venez pour être transformé. Demandez à Dieu d'utiliser ces paroles qu'il a inspirées par son Esprit Saint, qu'il les restitue comme un modem prend des signaux et les restitue pour que cette restitution affecte votre cœur et votre vie. Et là, vous allez être surpris de voir que vous allez parvenir à la connaissance de la vérité. Sinon, vous pouvez passer des heures, vous pouvez faire des tas de diplômes d'études bibliques. Et bien souvent, on a des gens qui, après des études en séminaire, qui ont fait des recherches, qui connaissent l'hébreu, l'araméen et tout ça. Et ces gens se retrouvent très loin de Dieu. Leur éducation, leur connaissance est devenue une idole. Ces gens sont dangereux parce que, de même que Jannès et Jambrès, alors cela, c'est pas des noms qu'on trouve dans la Bible, mais c'est des noms qui sont dans la tradition rabbinique, c'est-à-dire les textes des rabbins juifs, et c'était deux des magiciens qui s'étaient opposés à Moïse lorsque Moïse avait été chargé par Dieu de libérer son peuple, qui lui avait donné un bâton qui se transformait en serpent lorsqu'il se trouvait jeté par terre. Et ça, c'est les fameux passages de l'Exode. Ils étaient capables, ces magiciens, de répliquer, de copier, de faire ces mêmes tours de magie ou de ces mêmes miracles. Et c'est une chose que la Bible répète. Dieu veut nous mettre en garde. Les miracles, les choses qu'on n'explique pas rationnellement, dont on parlait tout à l'heure, sont en aucun cas une garantie de leur origine divine. Il est dit dans Matthieu 24, 24, dans les derniers temps, il s'élèvera de faux christs, de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. On voit des miracles à la télévision, on voit des grands prédicateurs célèbres, Benny Hinn, pour ne pas le nommer par exemple, qui font des miracles. Le tout, c'est pas qu'ils fassent des miracles, c'est de savoir quelle est la source de ces miracles, quand ce ne sont pas simplement et purement des supercheries. Mais de donner rendez-vous à des gens et leur disant qu'à mercredi prochain à 20h30, Dieu va faire des miracles, c'est avoir une piètre idée de la souveraineté divine. Dieu peut guérir, Dieu guérit, Dieu merci. Il le fait parce qu'il a compassion de ses créatures. Mais on le met pas en boîte et on lui dit pas de le quand est-ce qu'il doit le faire et devant qui. Et ce sont des choses, encore une fois, les gens vont dire, ah ben, il y a des miracles, donc c'est vrai. Non, la Bible nous dit clairement, notez si vous voulez, vous pouvez vous y référer par la suite, 2 Thessaloniciens 2:9, 2 Corinthiens 11:15, les miracles, les choses qui ne s'expliquent pas naturellement, peuvent être imités par Satan et ses anges qui se déguisent en anges de lumière. Ces gens se sont opposés, Jannès et Jambrès, se sont opposés à la vérité et ils ont résisté à Moïse. Ils ont mis en péril sa mission. On peut imaginer en même temps que ça doit être un encouragement pour ce jeune Timothée. On a dit que c'était quelqu'un qui manquait d'assurance, de voir que l'opposition qui se montre à lui, elle est un peu pareille que celle qui s'opposait à Moïse. Ça doit vous encourager lorsque quelqu'un dit « Tu es un peu comme Moïse. » Et l'opposition ne devrait pas te surprendre. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Ces gens-là, leur esprit n'est pas sain, leur esprit n'est pas selon Dieu, leur esprit n'est pas en accord avec Dieu. Ils ont un esprit corrompu, la corruption, la pourriture, la putréfaction, c'est l'esprit corrompu de ces gens-là. Leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Le mot d'épreuve me rappelle toujours, lorsque j'étais étudiant, j'ai étudié le génie civil, j'ai fait des stages dans des laboratoires où on testait des terrains. Et pour tester un terrain, vous avez peut-être vu des forages dans la ville de Nice pour voir où le tramway doit passer. On prend ce qu'on appelle des carottes, c'est-à-dire qu'avec un tube, on creuse la terre et on retire de la terre un morceau cylindrique de terrain. Et ce terrain, on le soumet à l'épreuve. On met une presse et on la fait monter en pression. Et on voit jusqu'où ce genre de terrain est capable de résister. Et c'est la même idée dans ce résister à l'épreuve, c'est le même concept, c'est de voir jusqu'où ils vont résister. Et je me souviens, on regardait pas parce que ça risquait de vous éclater à la figure. C'était dans un espace fermé avec des portes en verre, mais on suivait l'évolution de la pression sur des cadrans, et on voyait la pression qui montait en tonnes. Puis d'un seul coup, on entend un grand bruit, et l'aiguille retombait, on avait atteint le point de rupture. Et c'est toujours spectaculaire de voir lorsque quelque chose craque. Je l'ai fait l'expérience il y a quelques semaines. Je m'en serais passé. Mais c'est cette idée que devant les difficultés, on va s'apercevoir qu'en fait, leur foi, elle ne tient pas le coup. C'est ce qui fait dire à certains que ce qu'il nous faut, c'est une bonne petite persécution. Alors, on a déjà parlé de ça. Dieu est capable de tout. Il n'est pas seulement le Dieu des montagnes ou le Dieu des vallées. Il peut se glorifier, il peut se révéler, il peut causer un réveil dans des temps de paix. Mais bien souvent, c'est dans la difficulté qu'il va tester les hommes et tester son Église. L'Église qui doit se cacher pendant des années, comme en Russie ou en Chine, souvent lorsqu'elle est libérée, on s'aperçoit qu'elle a résisté à l'épreuve, elle est plus forte. Et elle peut commencer un réveil. Bien souvent, c'est lorsque la pression cesse que la corruption arrive. Des gens moins engagés vont se joindre et corrompre l'Église. Verset 9, « Ils ne feront plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. » C'est vrai que c'est une parole encourageante, il va y avoir des difficultés, mais il arrive un moment où devant la persécution ou devant les épreuves, on verra que ces hommes de la prospérité, c'était des charlatans. Que ces Benihin qui manipulaient les millions, les bagues en or et les Rolex et les Mercedes, c'était des escrocs. Alors, si on se détourne de quelque chose, c'est pour se tourner vers quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est ce que dit Paul au verset 10. « Pour toi, tu me connais, tu as suivi de près mon enseignement. Tourne-toi vers moi, fais-moi confiance. » La parole nous dit d'avoir du discernement, de nous méfier des faux docteurs, des charlatans de la religion, des gourous en tout genre, mais de nous tourner vers ceux qui ont fait leur preuve dans la vie, qui ont souffert pour Christ, qui sont restés fidèles à Christ. Et Paul a beau de dire, c'est facile pour lui, parce que Timothée l'a connu, Timothée a vu cet homme qui était laissé pour mort, qui se relevait et qui repartait annoncer la bonne nouvelle. Cet homme qui n'avait aucun égoïsme, qui vivait pour les autres, qui avait le souci des églises. Cet homme qui avait été persécuté, qui a souffert. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Paul avait vraiment montré un engagement total pour Christ, pour la cause de Christ, pour l'Évangile. Il avait été laissé pour mort. On a ce fameux passage, on peut regarder dans 2 Corinthiens 11, pour nous rappeler un peu de ce que Paul a connu. Paul se vante. On va dire, ah, il était orgueilleux. Non, il se vante pour défendre le message de l'Évangile qu'il amène face aux faux docteurs qui disaient que Paul n'était pas quelqu'un de fiable, que c'était pas quelqu'un qui parlait bien en public, c'était quelqu'un qui avait une apparence d'infirme, qui était pas quelqu'un qu'on aurait choisi pour annoncer les Oscars d'Athènes ou d'Hollywood. Et il dit, sont-ils hébreux? Verset 22, chapitre 11 de 2 Corinthiens. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Il est gêné de dire qu'il est encore plus sérieux, plus il s'est engagé davantage que ses faux serviteurs. Et c'est pour ça qu'il part du terme extravagant. Il est gêné, mais c'est pas pour se vanter, c'est pour assurer la source du message de l'Évangile qu'il communique. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Ça, c'était Paul. Il n'essayait pas de vivre pour lui-même, pour son propre intérêt. Il sacrifiait tout pour la cause de Christ, au point de se faire ressaisir par les autorités, frapper 5 fois. On imagine que son dos devait lui dire « Paul, arrête, j'en peux plus ». La chair était à peine guérie, qu'il repartait et qu'il s'exposait à recevoir encore des lapidations, des coups de fouet. Il avait peur de rien parce qu'il était animé par l'amour de Dieu pour ce peuple, pour ces gens qui étaient perdus. Et puis verset 12, ça c'est un verset que n'aiment pas nos amis de la prospérité. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Ça c'est le genre de verset qu'on ne voit pas sur les voitures des chrétiens, que on ne choisit pas comme son verset favori. Mais c'est néanmoins une vérité absolue. Tous en grec, malheureusement ça veut dire tous. Tous ceux qui veulent vivre pour plaire à Dieu, en Christ Jésus, vont subir des persécutions. Alors peut-être vous vous dites, mais moi je ne suis pas vraiment persécuté. Question à se poser, c'est peut-être que je vis pas assez pieusement pour Jésus-Christ. Alors il ne s'agit pas de rechercher les difficultés, les persécutions pour se convaincre qu'on suit Christ et qu'on lui plaît. Mais c'est une question qui doit nous sonder. Est-ce que dans ma vie, je parle assez de Dieu? Ou est-ce que quand je sens que c'est peut-être pas très bien reçu, je préfère prier? Ou est-ce que des fois, je devrais ouvrir ma bouche et je ne le fais pas? Dans les temps de la fin, les persécutions vont grandir. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hostilité vis-à-vis des chrétiens. Dans notre pays de France, on peut représenter dans un théâtre parisien en ce moment un visage de Jésus-Christ sur lequel les acteurs lancent des excréments. Et si on proteste contre ça, le maire de Paris, qui entre parenthèses est un homosexuel notoire et fier de l'être, porte plainte contre les gens qui protestent contre ce sacrilège. C'est dans si vous cherchez sur Google actualité, Christ, manifestation. Ça s'est passé, je crois, avant-hier. La police vient et, alors c'est vrai qu'ils avaient peut-être été un peu trop loin, ils avaient été sur scène pour dire non à ce genre de choses. Mais imaginons qu'il y ait eu un portrait d'Allah. Est-ce que ces mêmes impies auraient le courage, j'allais dire un mot espagnol qui commence aussi par CO et qui a du R dedans, d'aller risquer leur vie, leur tranquillité? On peut dire n'importe quoi contre Christ, les autorités ne diront rien. C'est la liberté de création qui est invoquée pour défendre ce genre de spectacle. Et je crois que là, c'est aussi un signe qu'on arrive vers ces temps de la fin. Je crois que si vous cherchez sur fondamentaliste et Christ et théâtre, vous tomberez sur les articles. On ne doit pas être surpris. On est dans cette époque où Ceux qui veulent vivre pieusement un Christ Jésus seront persécutés. On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. C'est la prophétie d'Ésaïe 5:20. On y est en plein. Lorsque j'annonce et que c'est enregistré et mis en ligne sur Internet que l'homosexualité est un péché, que l'on doit condamner l'homosexualité et aimer les homosexuels, je suis passible de poursuites par la HALDE et je ne sais pas quoi d'autre. Mais on en est rendu à ce stade où ce qui est bien est considéré comme ce qui est mal et ce qui est mal est considéré comme la tolérance, la vertu, l'ouverture d'esprit contre les bigots de fondamentalistes chrétiens. Et on va voir comment on peut résister, et ça sera une étude passionnante sur l'écriture la semaine prochaine, Dieu voulant. Savoir que ces persécutions ne sont pas sont attendues, c'est qu'on n'est pas surpris, c'est déjà mieux que d'être surpris. Nous allons voir que la clé, encore une fois, c'est de connaître la parole de Dieu et d'en connaître la puissance. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a libérés, par Jésus-Christ. Amen.